Salut Dominique Tremblay.
Bonjour Luc, ça va bien?
Ben oui, merci, et toi?
Oui, pas pire.
Écoute, l'exclusion de David Eng des Jeux de Tokyo en fait, on est déçu pour lui. On se demande de l'influence que ça aura pour le basket en fauteuil roulant. Peut-être juste expliquer que David avait remporté dans sa carrière 3 médailles paralympiques, dont une d'argent et 2 d'or. Championnat du monde une fois. Il a été porte-drapeau de la délégation canadienne aux Paralympiques de 2016. Revenons sur le bras de fer entre la Fédération internationale de basket en fauteuil roulant et le Comité international paralympique. Toi et moi en avions parlé lorsque le CIP a montré ses muscles au début de l'hiver en disant « si vous ne faites pas le ménage, il est probable que vous ne soyez pas à Paris, vous, Fédération de basket en fauteuil, et peut-être même à Tokyo ». C'est un problème de qualification. Là, au dire de l'IPC, il y a des joueurs qui ne sont pas assez hypothéqués physiquement pour participer au jeu.
Donc, pour faire une histoire courte, en 2014, le Comité international paralympique a mis en place un code de classification qui s'adresse à tous les sports qui veulent faire partie des Jeux paralympiques. Ce code-là permet une standardisation de la classification et aussi des certaines politiques. Un des critères importants, c'est les critères d'éligibilité pour être un athlète paralympique. Ouais. Et ces critères d'éligibilité-là sont divisés en 10 catégories d'handicap. Par exemple, l'handicap visuel en est un. L'ataxie en est un autre pour les athlètes, entre autres, qui ont la paralysie cérébrale. L'amputation en est un autre. Donc, ces 10 critères-là. Depuis 2014, le basketball en fauteuil roulant avait refusé de signer ce code pour faire partie des Jeux paralympiques. Mais il faut savoir que le basketball en fauteuil roulant, c'est un peu comme le soccer / football pour les Jeux olympiques. C'est la plus grosse fédération indépendante des Jeux paralympiques. C'est le sport le plus populaire. Donc, il y avait une guerre de politique entre les deux fédérations. Et c'était une différence de façon de voir les choses en termes de qui peut avoir accès aux Jeux. Pour le basket en fauteuil roulant, la Fédération internationale, le règlement de base, c'est si tu ne peux pas jouer au basket debout à cause d'une blessure, d'un handicap, d'un manque de quelque chose, tu peux jouer au basket en fauteuil roulant.
Mais c'est simple et en même temps, c'est clair.
C'est simple et c'est clair, mais c'est un peu aléatoire pour le Comité paralympique international. Parce que tu as juste à avoir un bon dossier médical quand tu présentes ta demande de classification et ça va être accepté et plus jamais questionné. Il n'y a pas vraiment de critères de base pour certains types d'handicap dans le basketball en fauteuil roulant. Ce que demandait le Comité paralympique international. Pour donner un exemple, pour jouer au basketball en fauteuil roulant, tu dois avoir une amputation. Le critère minimum pour le basketball en fauteuil roulant, c'était que tu devais manquer un orteil, la grosse orteil, pour être éligible au basketball en fauteuil roulant. Si tu manquais une main, tu n'étais pas éligible pour le basketball en fauteuil roulant. Mais pour d'autres types d'handicap, ce n'était pas aussi clair. Et c'est à partir de ce moment-là que la chicane entre les deux fédérations a commencé. Et ça a culminé là, au mois de mars, avec la menace que le Comité paralympique international a fait. Et David Eng a été celui qui a qui est un des premiers à manger, à être une conséquence de cette guerre-là.
Oui, il semble-t-il qu'on aurait testé ou évalué, en tout cas 75% des athlètes à travers le monde là, dans la fédération, qu'au Canada, il reste encore 5 filles à évaluer et 2 gars dont on attend toujours les résultats. Mais je comprends mal, Dominique, comment si quelqu'un n'a qu'une main... On décide déjà qu'il ne joue pas. Je veux dire, ça devrait être à l'équipe de déterminer si oui ou non le gars va être un atout ou pas. Au baseball, John Abbott a joué avec une main. S'il avait fallu que le baseball le discrédite simplement, je veux dire, si le gars il est bon.
Oui, mais c'est comme le code de classification est un peu comme le code antidopage. Donc le club de classification est s'assurer que les compétitions en général soient faites de façon équitable pour tous les handicaps et pour tous les sports. Et tout le monde doit suivre ce code-là, comme tous les sports et tous les pays doivent suivre le code d'antidopage. Et c'est important de mentionner que la classification et le talon d'Achille du comité du sport paralympique en général, comme les problèmes de dopage sont le talon d'Achille du cyclisme, de l'athlétisme ou de l'haltérophilie, par exemple.
Est-ce que la situation que l'on vit actuellement va modifier grandement le sport? Est-ce que les performances vont s'en sentir?
Ça reste mon opinion personnelle. Je ne crois pas qu'au niveau international, ça va modifier beaucoup de choses. Il y a quelques athlètes qui vont être affectés. Il y a donc certains pays qui vont perdre quelques-uns de leurs athlètes. Mais en général, je pense que ça va rester le même parce que c'est on fait seulement bouger un petit peu la limite comme quoi on peut jouer ou ne pas jouer. Puis c'est juste ça. En gros, ça ne changera pas quelque chose. C'est juste que présentement, il y a certains athlètes qui sont pénalisés et le timing est un peu inapproprié à quelques 4 mois, peut-être un an des Jeux, maintenant que ça a été déplacé. C'est un peu à la limite, mais fallait que le comité international paralympique mette ses culottes, comme on dit, puis dise il faut que ça se passe parce que ça traînait depuis 2014.
Bon, bien que ce soit plate pour le gars, David Eng n'était pas nécessairement partant de la formation canadienne, mais imaginons là, si les Jeux n'avaient pas été déplacés un an plus tard et qu'une formation internationale une formation nationale perde un partant à 2 mois d'avis, c'est quand même étonnant. Et je lisais l'entraîneur d'équipe canadienne, l'équipe masculine, qui lui disait peut-être que si l'ancien président du Comité international paralympique s'était, disons, manié davantage, on n'en serait pas là.
Il faut rappeler que l'ancien président du Comité paralympique international, son nom est Phil Craven, Monsieur Sir Phil Craven, est un Britannique. Il était l'ancien président de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant et lui-même un ancien joueur de basketball en fauteuil roulant. Donc, il est possible qu'il y ait un petit peu de politique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées en classification au cours des 6 dernières années. Le basketball en fauteuil roulant n'a pas été le seul qui a écopé. On parle, par exemple, du football à 7 qui a été exclu des Jeux paralympiques après les Jeux de Rio parce qu'ils devaient revoir leur système de classification aussi. Donc, est-ce que c'est le comité international paralympique qui s'est traîné les pieds? peut-être. Est-ce qu'ils ont essayé de trouver un terrain d'entente, puis la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant s'est traîné les pieds, puis on a dit « Ah oui, oui, on va régler le problème, puis on va attendre, puis on va attendre. On est tellement important que on n'a pas de problème, on va s'en sortir. » On n'était pas dans le secret des dieux, mais c'est possible que la menace aurait pu arriver un peu plus tôt, puis ça aurait réglé bien les choses.
En terminant, Dominique, est-ce qu'on aurait pu, parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas jouer debout, là. Donc là, en théorie, ils ne peuvent plus participer aux Jeux paralympiques. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, au lieu d'un 4,5, tu vas devenir un 5,5 sur le terrain? Et là, ça va coûter plus cher à l'équipe d'avoir un joueur comme ça, mais au moins, ça ne l'exclut pas.
Il y a plusieurs choses, mais le plus gros des problèmes, c'est que là, l'athlète ne répond plus aux critères minimales pour jouer le sport. Donc, c'est pas juste une question de « on peut-tu donner 5 points? »
Ouais, mais il peut pas jouer debout. Hé là là!
C'est pas tout le monde qui est-ce que c'est possible de jouer au hockey dans la Ligue nationale non plus.
Hein. Ouais. Bon, sur ces paroles de sagesse, on vous laisse aller.
C'est triste pour David. Ouais, ouais. J'espère qu'il va être capable de s'en remettre. Il peut être capable de jouer encore au Canada puis être impliqué dans le système canadien en tant qu'entraîneur ou des choses comme ça. Donc, on espère qu'on ne perdra pas ses connaissances.
Oui, oui. Puis dans une couple de semaines, là, il va quand même pouvoir se dire « j'ai eu une belle carrière ». Puis moi, je pense aux jeunes de 23 ans qu'on ne connaît pas. Puis, enfin, bref. Mais, mais c'est sûr que ça finit mal une carrière. Dominique Tremblay, merci beaucoup. On se parle bientôt.
Ça fait plaisir. Au revoir.